Chapitre 17 Complications et chinoiseries. Le 11 septembre, vers 10 h du matin, M. Saxby, directeur de l'office de Takeu, représentant pour la Chine du Box Pacific, était dans son cabinet, une vaste salle où des fenêtres largement ouvertes laissaient entrer du soleil, des parfums de fleurs et des chants d'oiseaux. Il dépouillait son courrier, assisté par un jeune employé qui trahissait son respect pour son chef hiérarchique par une gaucherie réjouissante. M. Saxby lui tendit une lettre. « Tenez, Hodin, notez ceci. La famille Palima du village de Tienbe viendra ce soir même déclarer le corps de la défunte Limoua, décédée à San Francisco et rapatriée par la Hivenid. Consultez le livre de bord et faites apporter le cercueil ici, afin que la reconnaissance puisse être opérée lestement. Sans cela, nous risquons de déjeuner trop tard. » Et tandis que l'employé se précipitait au dehors en se cognant à la porte, le directeur ajouta en aparté « Mais c'est incroyable, un pareil empressement. Le navire est à peine entré dans le port, que ces gens réclament leur colis. Le public devient de plus en plus exigeant, on n'a pas le temps de souffler. » Puis après un silence, « J'ai envie, conclut-il, de promulguer une circulaire. On ne prendra livraison que 24 h après l'arrivée des Transpacifiques. » À ce moment, on gratta à la porte et un petit groom, correctement vêtu de drap brun, parut sur le seuil. « Qu'y a-t-il, Bridge ?» demanda M. Saxby. « Ah, un homme sollicite une audience de M. le directeur. Quelle espèce d'homme ?» Un passager amené par l'œil venoué, il prétend avoir une communication importante à faire. Bon, ah, une réclamation encore. Enfin, c'est un client de la compagnie, je dois le recevoir. Faites entrer. Le groom disparut, puis annonça Monsieur Bouvreuil. L'usurier entra, souriant, salua M. Saxby. Ennuyé, qui répondit par un signe de tête. « Monsieur, commença-t-il, je suis français, propriétaire deux fois millionnaire, président de... » Le directeur se leva comme mu par un ressort et d'un air engageant. « Prenez donc la peine de vous asseoir. » Quand Bouvreuil se fut installé, « En quoi aurais-je l'agrément de vous être utile ?»« En rien, monsieur, c'est moi au contraire. » qui vient vous rendre un service. Vous, monsieur ?» M. Saxby était étonné, cela se voyait. « Ma foi, oui, » reprit le père de Pénélope d'un ton paterne. « Comme tous ceux qui connaissent l'aléa des grandes entreprises, j'ai horreur de la fraude. Or, votre compagnie est victime d'un fraudeur. » « Oh, vous m'étonnez. Notre surveillance est inattaquable. » Je l'écrivais encore dans mon plus récent rapport à l'administration centrale. Je ne vous dis pas le contraire. Cependant, un de mes compatriotes s'est introduit dans le hall réservé aux rapatriés et il a traversé le Pacifique sans solder son passage. Comment cela a-t-il pu se faire ? Grommela le directeur ébahi. Je l'ignore, mais je puis vous affirmer que cela s'est fait. L'homme doit être encore à bord, je ne l'ai pas vu descendre et j'ai bien surveillé, je vous en réponds. Vous le prenez, vous exigez le remboursement de la somme dont il vous a frustré, et voilà tout. » L'employé Holdin rentra. « Monsieur, la famille Palima est là, on vous attend pour l'ouverture du cercueil et la signature de la feuille de livraison. » « J'y vais. Vous permettez, monsieur, une minute et je reviens. »« Oh !» déclara Boutreuil. « Je m'en vais, ma mission est terminée. » Et se frottant les paumes, il termina à voix basse. « Comme le voyage de mon cher gendre. Terminé aussi, celui-là. » Les deux hommes passèrent dans la pièce voisine où plusieurs personnes entouraient une bière posée à terre. Tous chinois, les nouveaux venus portaient des vêtements de soie, sur lesquels étaient fixées de larges bandes transversales roses et blanches en signe de grand deuil. Une vieille femme pleurait. Deux désolés poussaient les hurlements aigus, lugubrement rythmés. La famille devait être à l'aise, car ses employés ne ménageaient pas les oreilles des assistants. La vieille vint à M. Saxby. « C'est moi, Palima, la mère de Limoua, morte à 22 ans. Voici le certificat du mandarin de mon village. »« Bien, » dit le directeur, « allez. » Les agents de la compagnie qui avaient apporté la bière numéro 48 se préparèrent à dévisser le couvercle. Mais ils l'avaient à peine touché qu'ils se rejetèrent en arrière avec un cri d'épouvante. Un homme s'était brusquement dressé. « La Varède !» s'écria Bouvreuil, tandis que les Chinois reculaient éperdus. Et s'adressant au directeur, « Voilà votre fraudeur !» M. Saxby tira prestement son revolver, qu'en bon américain il portait toujours dans la poche ad hoc, et ajusta Armand, surpris de se trouver en si nombreuses sociétés. « Vous êtes pris, au moindre mouvement, je fais feu. »« Oh, inutile, » répondit le journaliste, « je comprends que l'immobilité est nécessaire. » Sur un signe de leur directeur, les agents de la compagnie s'étaient approchés et avaient empoigné le voyageur. M. Saxby examinait Armand. Sa bonne mine prévenait en sa faveur, mais aussi fût-ce d'un ton presque amical, qu'il reprit. « Monsieur Aigues, je devine que tout ceci n'est qu'une plaisanterie, une gageure. Je ne ferai donc point d'éclat, vous priant seulement de régler le prix de votre passage. Vu l'exiguïté de la cabine que vous occupiez, je vous consentirai même une réduction de 25%. » La Varède s'inclina. « Oh, il est impossible de se montrer plus aimable, seulement. Il y a un seulement ? Oui, même réduit, le passage est encore trop lourd pour ma bourse, car je ne possède que 25 centimes. » Les bras de M. Saxby s'agitèrent désespérément. « 500, et vous avez osé vous embarquer sur un de nos steamers ? Ah, permettez, monsieur, on m'a embarqué. » Après m'avoir traîtreusement enfermé dans un cercueil avec quelques provisions, je me propose même d'intenter une action dommage et intérêt à la Box Pacific Line Company. » Du coup, le directeur se fâcha. « Vous vous moquez de moi, soit, je vais vous faire arrêter. » « Un instant, » intervint Bouvreuil, qui jusque-là s'était tenu à l'écart. « Il y aurait un moyen de tout arranger. » « Je prêterai avec plaisir à monsieur la faible somme dont il a besoin. »« Oh, ce bon Bouvreuil !» s'écria le jeune homme. « Je m'étonnais déjà de ne pas vous voir ici. » Mais l'Américain l'interrompit. « Empruntez à ce monsieur et que cela finisse. »« Mais je ne puis pas lui emprunter. »« Comment vous ne pouvez pas ?» Cessant de rire, Armand reprit, « Non, et il le sait bien, pour des raisons qu'il serait trop long de vous expliquer, mais je vais vous faire une proposition. Peu, vous êtes intelligent, cela se voit. Américain, vous êtes pratique, bien. En traversant le Pacifique comme je l'ai fait, j'ai mis votre compagnie en perte. Très exact, n'est-ce pas? Vous voyez, nous nous entendons déjà. Cette perte, il m'est impossible de l'empêcher, mais à titre de compensation, je puis vous donner le moyen de réaliser un bénéfice bien supérieur au prix de la traversée. Lequel ? La Varède eut un regard railleur à l'adresse de Bouvreuil, qui écoutait avec stupeur. L'Américain était au point où il s'était promis de l'amener. Monsieur le directeur, si je vous donne ce moyen, me tenez-vous quitte de ma dette ? Parfaitement, répondit M. Saxby après une seconde de réflexion. Alors écoutez-moi. Vous possédez 4 navires. Chacun effectue environ 6 voyages par an, avec une moyenne de 50 rapatriés, donc transport assuré de 1200 Chinois. Cela est vrai, mais je ne vois pas quel rapport. Suivez mon raisonnement. Sur ces 1200 passagers, un sixième à peine est assez fortuné pour acheter son cercueil de son vivant. Reste donc 1000 défunts auxquels vous fournissez la double boîte plomb et bois. Or, vous employez du beau chêne. J'ai pu m'en convaincre et la bière vous doit revenir à 5 $. Juste. S'il ne vous coûtait plus que 3 $, il y aurait pour vous un bénéfice net de 10 000 francs par an. Eh, grommela M. Saxby, nous y avons bien pensé, mais les clients veulent du chêne. Vous leur en donnerez, ou du moins vous leur en donnerez l'apparence. Dites, du sapin blanc, lavé d'abord à l'acide sulfurique étendu d'eau au 5e, puis à l'acide chlorhydrique au 6e, encaustiqué, et enfin verni. Très simple, mais êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Gardez-moi prisonnier jusqu'au moment où vous aurez fait l'expérience. Ce n'est pas bien long. Monsieur Saxby tendit la main au journaliste. Ma foi, monsieur, vous ne paierez pas votre passage et la compagnie fera encore une bonne affaire. Je suis réellement enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et à Bouvreuil, rongeant son frein, la marraine murmura avec son plus gracieux sourire. « Vous le voyez, mon cher monsieur Bouvreuil, avec un peu de chimie, on écarte les êtres nuisibles de son chemin. » Tout semblait arrangé. Les Chinois réunis dans un coin ne protestaient pas, et pour cause, contre les conventions débattues en anglais, quand un nouveau personnage pénétra dans la salle. À sa tunique bleue bordée d'une blonde verte, à sa coiffure sombre surmontée d'un bouton de jade, on reconnaissait un officier de la police. Auprès de lui se tenait un jeune homme de la famille Palima, qui s'était brusquement éclipsé lors de l'ouverture du cercueil. Celui-ci désigna la varenne au policier en prononçant des paroles que le français ne comprit pas. L'agent s'élança vers la porte et fit entendre une exclamation gutturale. Aussitôt, une dizaine d'hommes, vêtus comme lui, firent irruption dans la pièce et garrottèrent Armand. « Je regrette de vous avoir retenu, lui dit M. Saxby, qui venait de se entretenir avec le chef de la troupe. Votre affaire est grave. À ce point-là, vous êtes accusé d'avoir détruit la dépouille de la jeune Limoua pour prendre sa place. Sacrilège, profanation de sépulture, tout y est. Selon toutes les probabilités, vous serez condamné à mort. » L'avarette eut un léger frisson, mais se dominant aussitôt. « Grand merci du renseignement, répondit-il. « Soyez assuré que je suis bien fâché, reprit le directeur, et même si je pouvais vous être utile, n'avez-vous point de parents, d'amis auxquels vous désiriez adresser vos adieux? Je ferai parvenir vos lettres. » Un instant, le journaliste hésita. La douce image de Red passa devant ses yeux, puis il secoua la tête. « Je vous suis obligé, mais je ne souhaite encore annoncer ma mort à personne. Si, cependant, à ce bon monsieur Bouvreuil qui nous écoute, comme je lui ai sauvé la vie, la nouvelle lui fera plaisir. » Saluant l'usurier visiblement troublé, il se remit aux mains des agents et sortit sous leur escorte pour gagner la prison. Durant la traversée de la ville de Takéou, quelques groupes se formèrent sur le passage du cortège, mais ils furent aussitôt dispersés par le bâton que les policiers maniaient avec une dextérité indiquant une grande habitude. Les cités chinoises sont malpropres. Les rues, coupées au milieu de la chaussée par une rigole où les habitants jettent les immondices, affectent désagréablement la vue et l'odorat. En sa qualité de port, Takeu est encore un peu plus sale que les villes de l'intérieur. De monuments, aucun. La plupart des maisons sont construites de boue et de torchis. De loin en loin, une habitation plus riche montre sa façade ornée de faïences multicolores, figurant des arabesques compliquées, des animaux, des fleurs. Une seule promenade existe au bord du fleuve Peihou, à l'embouchure duquel s'élève la morose bourgade chinoise. Et encore, cet unique endroit de plaisir est-il attristé par la prison dont il est bordé. C'est là aussi, du reste, que le Titu, gouverneur d'un Hensien, ou ville de troisième ordre, fait exécuter les criminels. Armand ignorait ces détails. Aussi, en arrivant auprès du fleuve, il poussa un soupir de satisfaction. Dans les ruelles étroites et puantes, il étouffait. Ici, il pouvait respirer, à plein poumon. Devant lui s'étendait l'estuaire du Peihou, large de 3 kilomètres, avec ses eaux jaunâtres, coulant entre des rives basses, grises, ternes. Mais au moins, l'espace ne manquait pas, et l'œil pouvait parcourir le pays environnant. Sous les branches entrecroisées des platanes énormes qui abritent la promenade, Armand marchait avec une impression de soulagement. Pourquoi ? Sa situation n'était pas moins critique. Ses gardiens n'étaient pas moins attentifs. Mais un air plus pur arrivait à ses poumons, et cela suffisait pour que la confiance revînt au vaillant Parisien. Par exemple, il pâlit en apercevant à quelques pas de lui deux visages connus. Miss Aurette et son père, touristes quand même, visitaient la ville en attendant l'heure où la varenne avait promis de les rejoindre à l'hôtel. Et le hasard, ce malencontreux hasard, les avait conduits sur les bords du Peihou à point nommé pour s'y croiser avec le captif. La jeune fille porta la main à son cœur. Elle voulut parler, mais l'émotion était trop forte, les paroles ne dépassaient pas ses lèvres. Sir Merlighton, toujours calme, demanda en anglais pour ne pas être compris des gardiens. Vous avez été pris ? Oui, sur la dénonciation de M. Bouvreuil. Oh, le vilain homme ! S'écria Aurette, retrouvant subitement sa voix. L'un des policiers menaça le journaliste de son sabre. C'était une invitation au silence. Tout le monde l'a compris, et l'anglais entraîna sa fille défaillante. « Du courage, mon enfant, fit-il. Sachons où l'on conduit notre compagnon. Peut-être notre consul pourra-t-il agir en sa faveur. » Et la varède, qui se retournait pour apercevoir encore ses amis, les vit suivre à distance son escorte d'agents. Quand la porte de bois, aux traverses rouges, agrémentée de blocs de bronze figurant de fabuleux animaux, se referma sur lui, son regard rencontra celui de la blonde anglaise, fixe, égarée, et à ce moment terrible, où tout le séparait d'elle, il comprit que d'un mutuel consentement, ils auraient pu par un mariage annuler le testament d'un parcimonieux cousin. Très occupé par cette pensée, il traversa distraitement, à la suite de ses gardes du corps, la cour pavée de briques, gravit les degrés d'un perron de bois couvert d'un auvent peint en bleu, franchit une porte basse encadrée de jaune et se trouva dans une pièce sombre où un jeune Chinois écrivait au pinceau sur une longue bande de papier. Le chef de l'escorte s'approcha du scribe et lui dit quelques mots. Ce dernier se leva aussitôt et sortit pour entrer un instant après avec un gros homme, tellement bouffi de graisse que ses yeux bridés s'ouvraient à peine. Les policiers s'inclinèrent profondément en portant alternativement les mains à la hauteur des oreilles. « Bon, pensa la Varese, c'est le directeur de la prison. » Le poussa, demanda quelques explications aux agents, puis il fit un geste comme pour dire « Allez !» Deux policiers maintinrent aussitôt Armand, tandis que le chinois écrivain vida ses poches avec une dextérité merveilleuse. « Voilà un greffier, murmura le prisonnier, que les pickpockets ne renieraient point. » Ce fut tout. Il s'apercevait que dans l'Empire du Milieu, comme en Europe, le captif est dépouillé dès son entrée de tout ce qu'il possède. Le fouilleur avait étalé les objets sur son bureau, si l'on peut nommer ainsi une sorte de chevalet supportant une tablette inclinée. Le canif, les 5 sous, fortune du voyageur, furent l'objet d'un examen prolongé, puis les regards du directeur s'arrêtèrent sur la boîte de fer blanc apportée par le requin dans les eaux de Honolulu. La Varese fit un geste pour la reprendre. Ce n'est pas à moi, commença-t-il, mais les surveillants le resecouèrent brutalement. Il songea aussi que le français se parle peu en Chine, et il s'abstint. Le greffier ouvrit la boîte et en tira le parchemin qu'Armand s'était engagé à déchiffrer. Tranquillement, avec un geste prétentieux, les grades papier sont les mêmes sous toutes les latitudes. Il le déroula, mais à peine eut-il jeté les yeux, qu'il le laissa tomber sur la table en faisant une épouvantable grimace. Le directeur amassa la feuille et la reposa aussitôt en gonflant ses joues. Après quoi, il se passa la main sur la tête, regarda son greffier, puis le chef des policiers, et fit quelques pas en soufflant. Peu, peu. Il revint encore à l'homme qui avait arrêté le français. Un colloque animé s'engagea. De ses bras courts, le fonctionnaire décrivait de grands gestes, mais le policier impassible ne paraissait pas s'en émouvoir. Il répondait brièvement, conservant une attitude froide. Évidemment, il refusait une chose que son interlocuteur demandait avec insistance. Cela dura un quart d'heure sans que la Varese pût deviner de quoi il s'agissait. Les deux hommes tombèrent sans doute d'accord, car on conduisit le captif dans une chambre où on l'enferma. Resté seul, Armand se prit à réfléchir à sa triste situation. Un instant amusé par les grotesques qui avaient défilé devant lui, il songeait maintenant qu'il était enfermé dans une prison chinoise et accusé de sacrilège. Il connaissait, par les récits des missionnaires et des voyageurs, l'inflexibilité de la loi du pays, la cruauté des supplices, et il était obligé de s'avouer qu'à moins d'un miracle, son affaire était claire. Le vieil adage des fils de Han lui revenait à l'esprit. Punir un coupable est bon, mais frapper un barbare d'Europe est délicieux. Ces réflexions moroses mettaient sur le visage du prisonnier un masque mélancolique, et il ne s'étonna pas qu'une larme obscurcit vaguement ses yeux, tandis qu'il prononçait douloureusement son nom. Aurette. Ce doux nom joyeux, pimpant comme un rayon d'aurore, où le prélude du pinson prenait dans cette geôle l'aspect d'une raillerie. Plus infortuné que Tantale, qui au moins pouvait dévorer les yeux les fruits éternellement éloignés de ses lèvres, Armand ne verrait plus la jeune fille. Donc le gai parisien broyait du noir quand la porte de sa prison, en s'ouvrant, le fit sursauter. Gravement, avec des gestes courtois, le gros directeur parut, conduisant par la main une jeune fille. Fermant la marche, Le scribe se montra pourtant une table chargée de plats. Il la posa cérémonieusement devant le captif, avec deux bouteilles contenant un liquide semblable à du vin. Le directeur sourit et, du geste, invita Lavarède à manger. Puis il poussa devant lui la petite chinoise. Celle-ci, très intimidée, fixa un instant ses yeux sur le journaliste et, rougissant, ce qui donna à sa jolie peau citron la teinte d'une orange, elle dit d'une voix basse, en excellent français, « Je suis Diamba. »« Hein ?» fit Armand surpris. « Je suis Diamba, » répéta-t-elle. « Je comprends bien, mais comment se fait-il que tu parles la même langue que moi ?»« Les bonzes blancs m'ont appris. »« Bien, tu as été élevé par les missionnaires. » Elle inclina la tête pour affirmer. « Et on t'a permis de venir désennuyer un peu le prisonnier ?»« Non, ce n'est pas cela. » « Alors je ne comprends plus. » La fillette baissa les yeux. « Je dois te parler. »« Ben, je t'écoute, mon enfant, va. » Diamba regarda le directeur et échangea quelques mots chinois avec lui. Après quoi, elle s'adressa à Lavarède. « Chun Tse, directeur de la prison de Takeu, te dit ceci. » « Je regrette de te tenir captif, mais, humble fonctionnaire, je dois obéir au Titu qui gouverne la ville. Sans cela, on m'enverrait le sabre avec lequel je serais contraint de m'ouvrir le ventre. Sauf la liberté, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Bon repas, vin exquis, eau de vie de première qualité, thé de l'empereur, cueilli par des vierges aux mains gantées. » Afin que la feuille reste immaculée. Enfin, si tu désires écrire à tes amis, tes lettres leur seront fidèlement remises. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte en eau, Armand écoutait avec stupéfaction. Et le directeur Chun Tse s'inclinait, souriait de la façon la plus engageante. Diamba poursuivit. Chun Tse, sachant qui tu es, qui sont tes frères, a voulu te remettre en liberté. Il en a référé au Tiitu, mais celui-ci a refusé. « Ah !» put enfin s'écrier le journaliste. « Les tiens, a-t-il prétendu, montrent trop d'audace. Un express partira demain pour Pékin, et le Fils du Ciel lui-même statuera sur ton sort. Chun Tse, ici présent, te prie de remarquer qu'il s'est employé à te sauver. Il te prie aussi, lorsque tu correspondras avec tes amis, de leur affirmer qu'il les admire et que, malgré sa fonction, il fait des vœux pour eux. « Mais de quels amis parles-tu ? » questionna le captif, tout interloqué par l'étrangeté de l'entretien. Diamba croisa les mains sur sa poitrine, courba son corps en une inclination très respectueuse, puis se redressant, elle décrivit du bout du doigt un triangle sur son front. Du coup, Lavarède frappa le sien, il avait compris. Le diplôme de franc-maçon trouvé sur lui faisait son effet. Le prisonnier bénéficiait de la terreur inspirée par les sociétés secrètes. On le ménageait pour n'être pas victime de la secte à laquelle on le supposait affilié. Toute sa bonne humeur lui revint. D'un mouvement noble, il tendit la main à la chinoise et montrant son front, son ton, au diapason de la comédie où il se trouvait mêlé, « Diamba, dit-il, Chun Tse ne pouvait choisir plus gracieuse messagère. Reporte-lui mes paroles. Que la crainte s'éloigne de son esprit, ceux qui respectent les membres de la loge universelle n'ont point à trembler. Elle les protégera au besoin. Qu'il continue à se montrer attentif et courtois, et loin de le menacer, on veillera sur lui. » Le visage du directeur s'épanouit. Le poussa esquissa même une génuflexion, il se retira avec force protestation que Diamba avait peine à traduire. De nouveau, le journaliste resta seul, mais l'espoir éclairait maintenant la nuit de son esprit. Son geôlier se transformait en domestique. Chapitre 18. Les angoisses d'Orette. En voyant disparaître Armand dans la prison de Takéou, Orette avait demandé « Quelle est cette maison ?»«
Probablement la prison, » répondit Marlton.
La jeune fille piétina.
« La prison ? Et vous dites cela avec tranquillité. Les Chinois nous enfermaient un citoyen d'une nation libre dans les cachots réservés aux seuls criminels. Mais si l'on y met bon ordre demain, cela nous arrivera à tous, à vous, à moi. »
« Non, » interrompit le gentleman, « puisque nous voyageons correctement. » Un regard indigné de sa compagne lui coupa la parole. « Je pense, mon père, » reprit Orette d'une voix étrangement calme, « que vous n'allez pas reprocher à ce jeune homme certaines irrégularités dont vous êtes seul coupable. »«
Moi ?» se récria l'anglais.
« Sans doute, vous. » En acceptant la clause ridicule d'un testament insensé, vous avez contraint notre ami à faire de même. Vous l'avez en quelque sorte mis hors la loi, et j'estime... » Elle s'arrêta un instant. «
Vous estimez ?»
répéta le père, très ému par ses reproches, encore qu'il les sentît immérités.
« J'estime qu'il serait convenable de nous efforcer d'obtenir l'élargissement de M. Lavarède. »
Marlton regarda son interlocutrice d'un air ébahi.
Mais comment ? Je ne connais personne dans ce diable pays. Je suis incapable de me faire entendre des habitants.
Oh, parce que vous ne voulez pas.
Comment ? Mais je ne parle pas chinois.
Parce que je ne veux pas.
Ce n'est point cela ce que je veux dire. « Alors explique-toi !»
Il cédait visiblement. Orette cessa de gronder. Elle se fit persuasive et douce.
« Voyons, mon père, » continua-t-elle d'une voix caressante, « quand un Anglais est embarrassé en quelque point du monde, que fait-il ? »
« Ben, il en appelle à son consul. »«
Justement. »
« Eh bien, ne trouvez-vous pas que jamais... son intention n'aura été plus justifiée ?
Si, seulement Lavarède n'est pas anglais.
Mais il est notre ami, cela suffit. Depuis le départ, il m'a sauvé 10 fois la vie.
Au fait, pourquoi pas ? Allons au consulat.
Au fond, Sir Marlton aurait été très heureux de tirer d'affaire son compagnon du tour du monde, pour lequel il éprouvait une très large amitié. Aussi mit-il aussitôt à exécution l'idée de sa fille. Le consul écouta son récit, s'engagea à faire les démarches nécessaires pour obtenir la mise en liberté du journaliste et fixa ses compatriotes à rendez-vous pour le lendemain. Il lui fallait bien le temps de procéder à une rapide enquête afin d'établir nettement les faits. Une heure avant le moment désigné, la jeune Anglaise et son père se présentaient au consulat. Bien entendu, cet empressement intempestif devait être attribué à Miss Orette. Le résultat d'ailleurs fut une longue attente sur les sièges de bambou de l'antichambre. Enfin, ils furent introduits auprès du consul. Le visage de celui-ci était renfrogné.
« Je me suis occupé de votre affaire, » dit-il à Sir Marlton, « mais votre protégé s'est mis dans un mauvais cas. Le directeur de la compagnie de navigation m'a tout conté et le gouverneur, que j'ai visité, m'a déclaré que le sacrilège aurait été décapité dès ce matin s'il n'avait eu le bonheur d'être affilié à la Ligue universelle du ciel, de la terre et de l'homme. »
Poussé par sa fille, le gentleman raconta alors
comment l'acte d'adhésion à la Ligue était tombé entre leurs mains, comment des Chinois embarqués à bord avaient commis le sacrilège imputé à la Varenne. Mais le consul l'interrêta. Gardez-vous de parler de tout cela. Laissez croire que le prisonnier fait partie d'une société secrète. Tous les fonctionnaires tremblent devant elle. Le gouverneur en a eu peur. Il n'a pas osé prendre la responsabilité de l'exécution et il a envoyé demander des ordres à Pékin. Ah, si la famille Palima n'avait pas été riche, puissante, soyez sûr que votre protégé serait libre à cette heure. Malheureusement, un des Palima est mandarin, Chin Chong, c'est-à-dire chef militaire. Vous comprenez? Pris entre les Palima et les francs-maçons, le gouverneur a décidé qu'il ne déciderait rien lui-même. Il préfère laisser toute la responsabilité au Tsang-Yamen, conseil des ministres et du souverain. Mais alors, demanda l'anglaise, que faut-il faire? Attendre, mademoiselle. Longtemps? Oh, 3-4 semaines, peut-être. Elle leva les yeux au ciel avec une expression si désolée que le consul crut devoir lui adresser quelques paroles encourageantes. « Oh, je pense, mademoiselle, que tout finira bien. Dans ce pays, quand on ne tue pas tout de suite un coupable, il y a de grandes chances pour qu'il échappe à la mort. J'en ai parlé à mon collègue le consul de France, qui pense comme moi. Je vous promets de m'informer et de vous tenir au courant de ce qui adviendra. » Et sur cette promesse vague, il congédia les visiteurs. Tous deux reprirent le chemin de l'hôtel en silence, absorbés par leurs pensées, ne s'apercevant pas que des jeunes gens les suivaient. Armés de bâtons, foulant le sol de leurs pieds nus, les Chinois avaient l'air menaçants. Comme Sir Merliton et sa fille s'engageaient dans une ruelle, un bâton siffla en l'air et vint s'abattre rudement sur l'épaule du gentleman. Et en même temps, une clameur furieuse s'élevait et le groupe compact des assaillants se rapprochait rapidement. « Mais qu'est-ce que c'est ?» interrogea la jeune fille. « L'hospitalité chinoise !» fit flegmatiquement l'anglais. « La devise est simple et belle. Mort aux étrangers !» Tout en parlant, il avait tiré son revolver et faisait face aux ennemis. Même armée, la partie était inégale maintenant. 200 forcenés hurlaient la menace. Il allait tirer quand même, Orette retint son bras. Comme un éclair, le souvenir de Han le Céleste rencontré sur le Havenway lui était revenu. Elle entendait ses paroles lorsqu'il lui avait jeté la fleur de lotus. Avec cet insigne, vous trouverez des amis partout. Cette fleur, elle la portait dissimulée dans les plis de son corsage. La prendre et la présenter aux assaillants fut l'affaire d'une seconde, et soudain les clameurs s'apaisèrent. Les bâtons levés pour frapper s'abaissèrent lentement. Avant que le gentleman eût pu demander l'explication de ce brusque revirement, la rue était vide. Les ennemis évanouis. Moret s'amusa de son étonnement, puis elle lui raconta son aventure. Elle la lui avait cachée jusque-là, mais vraiment, elle venait d'avoir une si utile épilogue qu'un père bien plus sévère que Sir Merliton eût pardonné. Il ne reprocha point à sa fille son équipée à la chambre des morts, et grommela seulement « Ce pays ne me convient pas. Trop de sociétés secrètes. » La réflexion ne manquait pas de justesse. Les affiliations sont la plaie de l'Empire du Milieu. État dans l'État, elles entretiennent une perpétuelle agitation et les courageux missionnaires qui, par leur religion, le langage, cherchent à étendre là-bas l'influence européenne, voient leurs efforts paralysés par un pouvoir occulte. Heureux encore quand eux et leurs élèves ne sont pas déchirés par les meutes sauvages. À dater de ce jour, les Anglais purent circuler à travers la ville. Nul n'entravait leur marche, mais instinctivement, ils se sentaient surveillés, protégés. Ils eurent la preuve qu'ils ne se trompaient pas. Dans une de leurs promenades, ils s'égarèrent. Très embarrassés, ils cherchaient leur route. Un indigène s'approcha d'eux, les invita par geste à le suivre et les ramena à leur hôtel. Arrivé là, il s'éloigna sans accepter la pièce d'argent que lui offrait le gentleman. Cependant, la jeune fille s'ennuyait et surtout s'inquiétait. Que devenait Armand? Quand seule elle s'interrogeait, c'était toujours ainsi qu'elle l'appelait. Tous ses préjugés britanniques avaient fondu en face du danger de mort qu'il courait. Au lieu de résister à son sentiment comme le veut le Kant, elle ne se laissait entraîner par lui, heureuse et un peu fière de l'âme nouvelle qu'elle se découvrait, et doucement, elle répétait l'interrogation du philosophe. Pourquoi la tendresse si la mort? Et pourquoi la mort si la tendresse? Le huitième jour, elle voulut voir la Varède. Puisque son épingle en fleurs de lotus apaisait les masses, il fallait essayer son pouvoir sur les fonctionnaires. Avec Sir Merliton, très affectée par les derniers événements, elle se rendit à la prison. Mais toute son éloquence se brisa contre la passivité de Chauncey. Le directeur Ventru se retrancha derrière les ordres de Titou. Tout ce qu'il pouvait faire était de permettre à la jeune dame d'écrire au prisonnier. Il lui porterait la missive et reviendrait avec la réponse. Diamba, naturellement, servit d'interprète. Sur l'ordre du directeur, elle demeurait à la prison afin que le captif pût causer avec une personne parlant sa langue. Nul ne remarqua l'attention avec laquelle la Chinoise considéra l'Anglaise, mais après le départ de la visiteuse, elle alla s'asseoir dans la chambre d'Armand et, de sa voix concentrée, « Elle est belle, ta fiancée, » murmura-t-elle. Et comme le Varède tressaillait, « Elle est jolie, » continua l'enfant, « et son âme est à toi. » Ce fut tout. Dans ses simples paroles tintait comme une tristesse résignée. Peut-être la Chinoise avait-elle associé le journaliste à un rêve rouge, couleur des rêves d'Hyménée en Chine et seul employé pour la toilette des mariés. Pressant dans sa main fermée le papier sur lequel Armand avait crayonné en hâte quelques lignes affectueuses, Miss O'Reilly sortit de la prison. Sir Marleton paraissait mécontent du demi-succès de sa démarche. Sur le quai du Payot, ils se trouvèrent face à face avec M. Bouvreuil. L'usurier sembla gêné tout d'abord, mais se remettant, il salua cérémonieusement les Anglais d'un ton pénétré. « Oh, vous venez sans doute de visiter le prisonnier. » Sir Merliton et sa fille firent un détour pour éviter ce gêneur et poursuivirent leur marche sans lui répondre. Mais ce n'était pas le comte de Bouvreuil. Pivotant sur ses talons, il rejoignit les promeneurs. « Oh, peut-être, oui, jugez-vous ma conduite un peu sévèrement. Soyez certain que je ne prévoyais pas ce qui arrive. Je voulais seulement arrêter M. Lavarette pour assurer son union avec ma chère Pénélope. » Aurait se retourna comme si elle avait été piquée par une vipère. « Mademoiselle Pénélope n'épousera pas M. Lavarette, » dit-elle sèchement. Ah bah, bégaya l'usurier, un peu troublé par le ton dont ces paroles avaient été prononcées. On ne donne pas son nom à la fille d'un dénonciateur, continua l'Anglaise, se montrant peu à peu. Il faudra l'excuse de la passion pour entrer dans une famille aussi pauvre d'honneur. et M. Armand est loin de vous aimer, vous et cette demoiselle. Le résultat de vos manœuvres est que votre victime vous méprise un peu plus chaque jour, et je suis obligé de dire que mon père et moi, nous l'approuvons.
Bouvreuil, suffoqué, voulut protester. L'Anglais ne lui en laissa pas le temps.
Miss Marlton a bien parlé. J'ajoute qu'aucun rapport ne peut exister entre nous et un personnage de votre sorte. Maintenant, éloignez-vous, s'il vous plaît, et notez ceci. Désormais, ma bouche ne souffrira plus pour vous répondre, et puis mes poings se fermeront.
Et le gentleman présenta au propriétaire un poing de boxeur, si menaçant que ce dernier fit deux pas en arrière. Il s'abstint de retenir des gens avec lesquels la conversation était si difficile. Dans le fond, Bouvreuil éprouvait un très réel chagrin, non que le remords étreignît sa conscience. Depuis longues années, il s'était débarrassé de cet impedimentum, propre tout au plus à arrêter les honnêtes gens sur le chemin de la fortune, mais il comprenait que le mariage de Pénélope était plus hypothétique que jamais. De plus, il connaissait l'aimable caractère de son héritière, et de rentrer à Paris sans le fiancé attendu lui paraissait exempt de charme. Sans doute, l'usurier s'était frotté les mains à l'idée de forcer la Varenne à payer son passage sur le Hivenway, mais sa joie s'était transformée en désespoir lorsque les autorités chinoises s'étaient immiscées dans l'affaire. De suite, il s'était rendu compte de la gravité de la situation. Il s'était remué, visitant les fonctionnaires, offrant de larges pourboires au secrétaire des mandarins. Ses employés avaient accepté l'argent, mais n'avaient pas rendu le prisonnier. Découragé par quelques échecs coûteux, Bouvreuil s'était rabattu sur les consulats. Alors il avait entendu prononcer de grands mots qui faisaient frémir sa chair. Sacrilège, violation de sépulture. On lui avait raconté des choses inexplicables. L'avare de conspirateur, franc-maçon chinois, affilié à la Ligue universelle du ciel, de la terre et de l'homme. Il s'était enquis des sociétés secrètes, stupéfait de voir le journaliste mêlé à la politique intérieure de l'Empire du Milieu. Si bien que, n'y comprenant plus rien, il avait puisé dans le désarroi même de son esprit le courage d'aborder Marlton pour tâcher d'en tirer quelque éclaircissement. La réception du gentleman n'avait pas répondu à son attente. Aussi le malheureux propriétaire eut-il, quand les Anglais furent trop éloignés pour l'entendre, un transport de colère, auprès duquel les épigrammes des héros d'Homère eussent semblé de simples mouvements d'impatience. Les nerfs de tout homme, fut-il usurier, ne peuvent demeurer éternellement tendus. Bouvreuil se calma donc. Plus paisible, il tint conseil avec lui-même et décida que, les circonstances ne lui permettant pas d'agir autrement, le plus sage était d'attendre les événements. Mais, supposant que la présence de Miss Oren dans la prison cachait peut-être quelques projets d'évasion, il se déclara qu'il convenait de surveiller étroitement la jeune fille afin de poursuivre son gendre s'il réussissait à tromper la surveillance des geôliers de Takeo. 2 semaines s'écoulèrent sans qu'il découvrît le moindre indice propre à l'avertir d'une fuite prochaine. L'Anglaise sortait avec son père. Chaque jour, elle était un peu plus pâle, et autour de ses yeux si doux, le chagrin plaquait une meurtrisseur blottée. Elle avait fait 3 visites à la prison, mais après chacune, elle revenait plus attristée. « Sapristi !» se disait Bouvreuil, « ça marche donc pas, mais qu'est-ce qu'ils attendent ?»
Le mois d'octobre commença. Jusqu'au 15, la vie continua de couler, monotone, fastidieuse, écœurante. Mais le soir de ce dernier jour, une nouvelle terrible arriva. Ce fut le consul anglais qu'il apporta à ses compatriotes au moment où il prenait silencieusement le thé à l'hôtel de la Box Pacific Line. En le voyant paraître au parloir, Orette courut à lui, les mains tendues, les yeux dilatés par une ardente interrogation. « La décision de l'empereur a été notifiée au Titou cet après-midi. »« Ah ?» fit seulement la jeune fille. « Et qu'a décidé sa grâce ?» demanda Sir Mulliton en se levant. Le consul baissa la tête. Une émotion poignante secoua ses interlocuteurs. « Quoi ?» balbutièrent-ils. « Monsieur Lavarède doit être conduit à Pékin, chargé de la cangue et décapité au lieu ordinaire des exécutions, près le pont des larmes. » Orett ferma les yeux et chancela. Non seulement celui qu'elle aimait appartenait au bourreau, mais encore il subirait le supplice de la cangue, supplice atroce. La cangue est une sorte de carcan formé de planches épaisses de 3 à 4 centimètres, réunis par des lanières de cuir. Des trous pour passer la tête et les mains du patient y sont ménagés. Le malheureux doit marcher avec ce lourd appareil qui gêne ses mouvements, lui déchire le cou et les poignets. La jeune fille voyait Armand suivant ainsi torturé les routes poudreuses de la province de Petchili. Durant 5 jours, il devrait, meurtri, pantelant, fournir une longue étape avant de gagner Pékin. Et là, l'horrible chose. La fin de ces mots serait le trépas brutal. Un coup de sabre jetterait sur le sol sa tête intelligente. Ses regards aux douceurs rieuses s'éteindraient pour toujours. Tout à coup, l'anglaise releva le front. Le consul s'était éloigné discrètement, laissant seul ceux auxquels il venait d'apporter une si terrifiante nouvelle. « Mon père, » dit-elle. « Mon enfant, courage !» répliqua Sir Mulliton d'un ton ému. « Mais du courage j'en ai, mais j'ai aussi une prière à vous adresser. »« Parle, ma fille chérie !» Elle regarda le gentleman bien en face, lui découvrant les pervenches humides de ses yeux. Puis elle poursuivit. J'avais rêvé de devenir l'épouse de M. Lavarède, mon père. Depuis longtemps déjà, j'ai reconnu que je l'aime. Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir avoué plus tôt. Un pari est engagé. Je devais me taire jusqu'à ce que le sort eût prononcé. Aujourd'hui, hélas, le sort a parlé. Il va mourir. Je veux être là auprès de lui, protéger son corps contre les injures de la multitude, lui assurer une sépulture, et après... » Orette s'était arrêté, étranglé par l'émotion. « Après ?» répéta anxieusement le gentleman. Pour toute réponse, elle se jeta dans ses bras et éclata en sanglots. À force d'éloquence, Sir Mulliton réussit à lui rendre quelque espérance. Lavarède s'évaderait peut-être pendant la route. Dans une prison, au milieu de nombreux gardiens, la fuite est plus difficile que sur les chemins où 1000 incidents surgissent dont un homme déterminé sait profiter. On irait à Pékin puisqu'elle le désirait. Orette parut oublier sa douleur pour s'occuper des préparatifs du départ. Avec son père, elle se mit en quête d'un véhicule quelconque, mais la ville en comptait peu, et tous ceux qu'elle possédait avaient été retenus par les fonctionnaires ou les riches marchands. Ces gens-là se rendaient à Pékin pour assister à des fêtes sans précédent. Un ballon dirigeable, ils disaient, un navire aérien, devait faire son ascension. L'annonce de cette merveille avait secoué l'apathie des habitants, et dans tout le ken de Petchili, il ne restait voiture ou jonque à louer. Cependant, à force de chercher, l'Anglais découvrit un coolie coréen qui, moyennant le prix exorbitant d'un tael par jour, consentit à conduire les voyageurs dans sa brouette à voile. Le tael est une pièce d'or à valeur variable. Quant à la brouette à voile, elle se compose d'une sorte de table carrée percée au milieu pour laisser passer l'unique route qui la porte. À l'avant, quand le vent est favorable, un mât permet de hisser une voile. À l'arrière, deux bras, entre lesquels trotte le conducteur du bizarre équipage, servent de gouvernail. Pas très stable, ces véhicules exposent les touristes à des culbutes fréquentes, mais il fallait se contenter de ce que l'on trouvait. Marlton et Orel s'entendirent avec le Coréen. Ils viendraient les prendre à l'hôtel le lendemain, 16 octobre, à 8h du matin. Le gentleman lui remit quelques sapèques, monnaie de billon, à titre d'avance et rentra avec Orette pour la dernière fois à l'établissement monté par la Box Pacific.